pouvoir discuter sur cette deuxième table ronde. Donc, la précédente a interrogé, on pourrait dire globalement, la compatibilité du mot doux avec les règles du champ culturel, hein, tel qu'il fonctionne aujourd'hui, et des enjeux. Et la question de savoir si sa reconnaissance suppose une transformation des règles du champ culturel elles-mêmes, dans un contexte de restriction budgétaire où la sobriété risque de devenir, comme on l'a dit, une caution morale plutôt qu'un levier de transformation. Celle-ci, aujourd'hui, là, donc la deuxième table ronde, descend à un niveau plus concret. Hein, donc voilà, il faut lier ces deux tables rondes. Comment fait-on le métier à mode en tant qu'artiste? Comment contractualise-t-on? Comment se rémunère-t-on? Quelle définition d'artiste ces pratiques supposent-elles? La transformation écologique du secteur ne peut reposer sur le seul surinvestissement des travailleuses de la culture. Exige de repenser ce qu'est être artiste à l'ère de la sobriété, d'inventer des formes de collectives d'organisation du travail qui préservent le temps de la création et de construire une économie capable de reconnaître le travail de bifurcation écologique déjà accompli, déjà là, en posant clairement la question de qui doit en assumer les coûts. Voilà, donc le fil conducteur, voilà, c'est... le mot doux impose visiblement une hybridation professionnelle qui amplifie ce qu'on pourrait appeler la condition ordinaire des artistes, donc ça on va le définir. Et donc, comment d'abord, en premier lieu, on peut faire pour que cette transition ne soit pas au prix d'un surinvestissement des travailleurs de la culture? Donc d'abord, peut-être Olivia, donc, tu es comédienne, voilà, dans la... Luciole, c'est ça?
Oui, voilà. Joyeuse,
la joyeuse Luciole. Tu es aussi membre d'Armodo, évidemment, on s'est rencontrés comme ça. Est-ce que tu peux un peu te présenter et nous dire quand est-ce que tu as commencé à pratiquer le mode doux, quoi? Comment c'est devenu cette histoire-là?
Oui, alors la compagnie de la joyeuse Luciole, c'est une compagnie qui est implantée dans le Tarn depuis 2016 et qui a porté trois spectacles. Tous traitant un peu du sujet de notre rapport au temps, ce qui est assez central dans ma réflexion de manière générale, que ce soit dans le fond ou dans la forme. Le premier était une fable sur l'obsolescence programmée, le deuxième était une sorte de lieu de clown dans une vie dystopique, et là le dernier c'est une réflexion sur la création à l'ère des IA, de la rentabilité, et d'une vie de plus en plus rapide. Voilà. Et tous ces spectacles ont été pensés dans la création pour tourner à mode doux. Aujourd'hui, je dis à mode doux parce que j'ai rejoint Armodo, dont je suis au collège depuis un an, mais à l'époque, c'était plutôt pensé pour ralentir, en fait, tout simplement. Et en 2016, du coup, la première chose qui m'a donné envie de ralentir, c'est que j'étais comédienne déjà dans d'autres compagnies, et je m'épuisais à prendre mon camion, à aller jouer une date, donc monter le décor, jouer, démonter le décor, dire à peine bonjour, au revoir aux équipes techniques qui nous accueillaient, et repartir avec le camion. Et j'ai lu un livre que je vous recommande qui s'appelle « Un théâtre qui marche » de Philip Fenwick, qui retrace un peu les tournées itinérantes de la compagnie des trains, qui a fait des tournées itinérantes à pied assez gargantuesques. La plus longue part de Saint-Pétersbourg pour arriver à Brest. C'était pas dans une idée écologique, puisque le décor, tous les transports, enfin voilà, il y avait une logistique technique qui était transportée en voiture. Par contre, les équipes artistiques voyageaient à pied à travers la campagne, et quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, c'est exactement ce que j'aimerais rechercher, à la fois vivre des moments de série en troupe, pour pouvoir vivre des moments humains différents que voyager sur les autoroutes et discuter dans le bruit d'un camion, puis rencontrer un peu le paysage dans lequel on va jouer, rencontrer les habitants, les gens qui vont peut-être venir nous voir aussi, et avoir ce temps de souffle entre les représentations qui me semblait essentiel pour rôder des spectacles notamment. Donc c'est ce qui m'a amené un peu...
La question du temps, quoi, est centrale effectivement dans tes aspirations à faire ton métier de la manière la plus correcte, ce qui te semble correct, quoi. J'aimerais qu'on rentre là dans le dur sur ces questions d'intermittence. Donc, du coup, tu es intermittent du spectacle, oui, tu es dans ce régime-là, d'accord. Pour autant, on a pas mal discuté ensemble, comme je vous l'ai dit, on a fait beaucoup d'entretiens, et je sais que tu contractualises pour avoir l'intermittence, notamment auprès de personnes qui n'organisent pas de spectacle, qui sont des bénévoles en fait. Pas tout le temps, évidemment, mais que, effectivement, tu bricoles à travers plusieurs formes de régime d'emploi, en fait. Hein, et tes interlocuteurs et interlocutrices ne sont pas les mêmes. Donc, ça t'arrive de jouer chez l'habitant et l'habitante. Déjà, pourquoi, peut-être? Et de deux, comment tu fais? Comment ça se passe? Comment? Parce que tu m'avais dit qu'il y avait une histoire de convention, donc j'aimerais bien en savoir un petit peu plus là-dessus, s'il te plaît.
Oui, alors... La compagnie essaye d'organiser au minimum une tournée par an, et si on est super fort, parce que, enfin si je suis super fort parce que je suis toute seule, peut-être deux, à pied ou à vélo, et on essaye de faire des chaînons de programmation. Donc en général, ça part d'un achat en session avec une structure culturelle qui a les moyens d'acheter un prix de session. Et qui positionne un petit peu le début ou la fin, ou enfin, peu importe la localisation de la tournée. Et ensuite, on regarde autour les partenaires culturels qui se trouvent autour d'eux. On a mis en place dans nos devis de prix de session ce qu'on appelle la participation verte, parce qu'au départ, on l'avait appelé la participation douce. Ça compliquait les choses. Donc verte, c'est bien, c'est écolo, ça marche. C'est plus repérable. Et cette participation, on l'explique en disant, voilà, vous êtes un partenaire culturel, si vous arrivez à nous aider à déclencher un autre achat de prix de session avec un autre partenaire culturel en série avec votre date et à moins de 50 km parce qu'on a des mollets fins, eh bien, on réduit le prix de session de votre session et de ce partenaire culturel de 150 €. C'est un outil qu'on utilise pour déclencher un petit peu des constructions de tourner en commun. Ça ne fonctionne pas avec des structures, comme tu dis, qui ne sont pas des structures culturelles ou qui sont des habitants, etc. Et donc, la compagnie et les gens avec qui je travaille ont accepté de valoriser l'idée de série, d'itinérance, et d'accepter de passer par des vides, parfois des lieux qui n'ont pas de structure. Donc nos spectacles sont construits pour jouer en lieu dédié et non dédié. On a une autonomie technique au maximum et on essaye de rencontrer un maximum de personnes. Donc il y a heureusement en France pas mal de solutions. Il y a l'option des GUSO pour les personnes qui n'ont pas du tout de structure associative. Il y a des aides dans les zones grises notamment qu'on peut demander avec le FDVA pour les associations qui ne sont pas forcément dirigées sur la culture mais qui aimeraient créer des événements culturels, etc. Donc c'est un travail que je peux me permettre de faire justement parce que j'ai l'intermittence, et ça va parler pas mal de ça, j'ai l'impression, de la table ronde, c'est ce qu'on a réfléchi ensemble, c'est je peux me permettre de faire ce travail de sensibilisation et de coordination des productions de tournées. Parce qu'à côté, j'estime avoir du temps libre sous forme de chômage intermittent qui me permet de déléguer une partie de ce temps voilà, à la structuration. Évidemment, je serais trop heureuse de pouvoir déléguer ce travail à un salarié ou une salariée, mais pour l'instant, la nécessité fait que...
Tu fais la plus réactivité. Il y a aussi cette question, et puis après on va enchaîner avec Stéphane, mais qui me semble intéressante parce que tu travailles aussi dans une zone grise, j'ai l'impression, où des bénévoles artistes, ceux qui n'ont pas prétention à la professionnalisation, peuvent tout aussi bien discuter avec des habitants et des habitants, qui ne sont pas des professionnels, pour organiser ton spectacle. Comment tu manœuvres avec cette idée-là? Il y a des formes de concurrence avec des bénévoles. Comment est-ce que ça pose des problèmes potentiellement pour valoriser ton activité en tant que professionnel, quoi?
Oui, c'est vrai qu'on avait parlé de ça. Effectivement, les pratiques amatrices ont, de mon point de vue, une grande importance d'exister puisqu'elles sont l'émergence des activités culturelles, etc. Et donc, elles sont nécessaires aussi dans le paysage culturel qu'on doit avoir dans nos régions, et voilà. Mais il y a une vraie concurrence, je ne sais pas, mais en tout cas des frictions parfois lorsque ces groupes amateurs viennent présenter des spectacles et demandent à être rémunérés pour cette présentation de spectacle, puisque du coup ça dévalorise notre travail en tant que professionnel. Et quand nous on vient présenter des devis et des prix de session qui sont justement calculés et très très justement calculés, eh ben, on est toujours plus cher de fait, parce que on a pas d'autre métier à côté que celui-là. Donc comment je travaille avec ça? J'ai envie de dire que je travaille avec les outils qui sont créés pour ça. J'avais envie de parler rapidement de deux outils, mais que je trouve, il y en a plein, et vous en avez parlé dans la première table ronde, ces émergences un peu de mutualisation, de savoir qui apparaissent de façon citoyenne ou organisée. Il y a CooProd, qui est un outil qui a été mis en place par Londa, qui est réellement l'outil de construction de tournées itinérantes avec des lieux partenaires. Donc l'idée, c'est qu'il y a un artiste qui dit « voilà, je joue ici », et ça apparaît sur une carte, et les lieux partenaires peuvent se positionner en disant « ah, ça joue ici à telle date, alors moi je veux bien le prendre, etc. 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 » Bon, je vous laisserai regarder ça.
Ce que tu veux dire, c'est qu'avec cet outil-là, ça permet de te recentrer sur des professionnels qui vous accueillent, et donc du coup dans des réseaux qui garantissent cette professionnalisation.
Exactement. Okay. Du coup, effectivement, pour revenir avec le côté amateur, rentrer dans ce CooProc, ça implique d'avoir une association qui est du secteur culturel et qui présente des spectacles professionnels. C'est pas ouvert aux amateurs, ça doit peut-être exister, mais je crois qu'il n'y en a pas la nécessité pour les amateurs. Et le deuxième outil, qui est un peu plus entre les deux, qui s'appelle Hors-Mur, qui est un outil qui date depuis un bon moment, puisqu'il y a eu plein d'émergences de projets hors-lit, hors-mur en France, en tout cas, mais qui lui est une sorte de cartographie aussi d'artistes et d'hôtes bénévoles qui accueillent des spectacles à l'impromptu, et ça permet de faire se rencontrer différents publics. Et bizarrement, même si à la base c'était ouvert pour une pratique amateur et professionnelle, on voit en ce moment que, alors je ne sais pas si c'est la crise, mais on voit en ce moment qu'il y a plus de professionnels qui continuent à entretenir ce réseau-là que d'amateurs qui ont fini par l'abandonner.
D'accord. Merci beaucoup. Un petit point supplémentaire pour faire la transition, mais je crois aussi que ce qu'il faut dire, ce qu'on avait discuté, c'est que aussi les logiques de programmation, quand on est à Meudou, ne sont pas forcément compatibles avec le fait d'être, de faire 30 bornes par jour. Avec ces logiques d'exclusivité, en fait, les salles culturelles veulent garder l'exclusivité pour être sûr de garantir que le public vienne. Et donc, du coup, il y a aussi cet enjeu aussi d'aller hors les murs, parce que, justement, les logiques de programmation ne sont pas toujours, même si ça change à certains endroits, on l'a vu quand même, mais ne sont pas toujours, ne permettent pas toujours, effectivement, de jouer aussi là-dedans. Il y a aussi cet enjeu-là aussi. Bon. Merci Olivia, Stéphane. Alors, pourquoi c'est hyper important que Stéphane aussi parle avec nous? Parce que malgré le fait qu'effectivement Icare et Dédale sont un projet national, il nous paraissait important d'avoir un Belge avec nous. Effectivement. Tout simplement pour qu'on nous permette de décaler notre regard sur ce que c'est que l'intermittence. Parce que Stéphane, j'ai cru comprendre que toi, et ça change tout, visiblement, et tu vas peut-être nous dire pourquoi, l'organisation du travail, les structures qui l'encadrent, permettent effectivement de faire autrement aussi, quoi. Et donc ça nous permet, j'espère que ton discours va nous permettre de nous décentrer et nous dire que, ben oui, une autre intermittence est peut-être possible aussi, quoi. Même pas que l'étendre, une autre intermittence est aussi possible. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus, s'il te plaît?
Oui. Je me présente un minimum, je suis la caution internationale de la journée.
Artiste international, s'il vous plaît.
Je vis depuis mes 14 ans de l'itinérance en roulotte sur la période de la saison d'été. Ça fera 40 ans l'année prochaine. Je commence à organiser des choses moi-même quand j'en avais 19. Et depuis seulement 2016, je travaille professionnellement avec un salaire, et uniquement un salaire dans ce cadre-là. Toute cette autre période, j'ai travaillé en parallèle ailleurs pour que la question économique soit réglée autrement que par le biais artistique et de ne pas me corrompre, c'est peut-être pas le terme, mais plutôt ne pas basculer, ne pas faire des choses que j'ai pas envie de faire artistiquement ou de devoir rentrer dans le fait, rentrer dans la, quelque chose qui va marcher, non, parce que c'est la mode pour le moment, ce truc-là, donc vous pouvez le faire. Et je voulais pas rentrer là-dedans. Notamment parce que mon projet était de jouer là où il ne se passe rien. Alors je croyais qu'il ne se passait rien, et ça c'était dans ma jeunesse. Et donc j'arrivais en bon colonial de la ville, dans les villages milieux ruraux, en disant « je vous amène la culture ». J'exagère, ce n'était pas du tout ça la démarche, mais il y avait quand même un peu dans le fond de ma mémoire un truc qui traînait au niveau de là-dedans. Et très vite j'ai compris que la culture elle existait déjà là-bas, et qu'il s'agissait de participer à une culture déjà existante et préexistante, et à une vie sur les déserts culturels. Ils existent peut-être, mais ce n'est pas des déserts de vie, et c'est peut-être des déserts artistiques, ce ne sont pas des déserts culturels, parce qu'on a tous une culture qu'on vit et qu'on pratique quelque part. Et donc ça a été aussi une démarche à trouver cette position juste, venir avec une proposition artistique qui enrichit, et qui, mais qui ne soit pas dans une position où je suis le Belge qui vient vous apprendre ce qu'on fait des merveilles de Chine. Et pourtant, on m'a demandé de parler dans ce sens-là, donc je vais le faire un petit peu.
Merci.
En Belgique, on a une intermittence, un statut d'artiste qui a été réformé après le Covid, parce que pendant le Covid, avec l'interdiction des spectacles, le gouvernement fédéral, mais aussi les entités fédérées, puisqu'on a des entités fédérées, on pourrait dire gouvernement régional chez vous pour faire ça, je ne sais pas le terme, tout simplement. Se sont rendus compte que, il y a des gens qui font de l'art, qui vivent de l'art, et qui, maintenant qu'on interdit tout parce que c'est soi-disant accessoire, crèvent la faim et ne s'en sortent pas, et ils ne savent même plus payer leur loyer. Et donc, il y a une réforme du statut qui a été lancée. Et en Belgique, on a cette culture de la concertation très très fort. Donc, toutes les fédérations d'artistes, d'employeurs se sont réunis on a travaillé à prémâcher un travail qui après s'est porté au niveau politique. Dans cette démarche, une des choses les plus importantes qui a été mise en place, c'est de pouvoir être sur du temps long et pas du temps à l'année. Moi, je suis toujours sidéré de voir, et c'était comme ça en Belgique avant, et c'est pour ça que j'ai refusé de rentrer dans le cadre du statut d'artiste, la course à l'année pour avoir les 50 dates, pour avoir les... C'est juste mettre les gens sous pression et donc accepter n'importe quoi, n'importe quelle condition de travail, à s'auto-exploiter pour arriver à remplir le critère, parce qu'il y a une question de survie derrière. Et en plus, si on ne le remplit pas, ça c'est le cas en France, ben, on n'a plus droit à la sécurité sociale. En Belgique, si tu perds ton statut, tu émarges au chômage, d'abord. Alors maintenant, le chômage est à durée déterminée en Belgique, ce n'était pas le cas avant, mais donc au moins on a encore ce temps-là qui permet de faire le lien. La deuxième chose qui a été mise en place, c'est que pour obtenir ce statut, il y a un nombre de jours de travail à produire, qui est plus ou moins de 150 jours, 145 si je ne me trompe pas. Hors de ces 145, on peut retirer 40 jours qui doivent être du travail salarié, mais qui ne doivent pas être forcément du travail artistique.
C'est pas que la diffusion. Parce que
c'est là, pas que, non, je peux aller travailler dans une boucherie pendant 40 jours, j'ai 40 jours de fiche de paye, et ça rentrera dans mon calcul de mon statut d'artiste sur les deux années, où je dois avoir 745 jours sur les deux années précédentes. Et donc le reste, là, ça va être en artistique, et là, c'est ça va être de la prestation artistique. Mais on a fait rentrer dedans tout ce qui est le travail de technicien, donc les techniciens peuvent aller au statut d'artiste. Et tout le travail aussi du travail connexe. Et donc le terme de la réglementation et de la loi, c'est il faut que ce travail, s'il n'avait pas existé, n'aurait pas permis à cette œuvre de se produire, d'exister. Et ce n'est pas uniquement un statut vers les arts vivants, c'est également un statut vers tous les domaines. Donc les auteurs de bande dessinée, les écrivains sont aussi dans le cadre du statut d'artiste. Avec une entrée en matière, et là c'est là où le nombre de jours se transforme, non plus de nombre de jours, mais de montant. Si j'ai des cachets d'artistes qui dépassent les 80 euros, je crois que c'est 83 maintenant avec, avec l'inflation, ben je peux commencer à démultiplier le nombre de jours. Donc je fais une journée où j'ai gagné 160 euros, mais mes deux fois 80, ça me permet de faire deux jours, de considérer comme deux jours différents. Si je touche les droits d'auteur pour une œuvre, ça rentre également dans le cadre de. Et c'est divisé par ces 80 euros. Et donc du coup, ça change pas mal la donne. On est passé d'un statut où, ayant dépassé 50 ans, si je voulais le statut d'artiste, il me fallait 550 jours de travail sur une période de 2 ou 3 ans. Bref, c'est impossible à obtenir, puisqu'on a 225 jours de travail salarié sur une année de manière classique. Ça veut dire travailler tout le temps à temps plein, et c'est pas le mode de contrat. Et en plus, on est là pour de l'intermittence. Et donc, avec cette réforme, c'est devenu 154 jours pour tout le monde, quel que soit l'âge. Il n'y a plus de ces notions. Et moi, ça m'a permis de rentrer dedans de manière automatique. Il se fait que j'ai participé, parce que j'ai été coordinateur d'une fédération de théâtre pendant quelques années, j'ai participé au débat et à l'écriture de cette nouvelle réglementation, en tout cas aux propositions d'écriture de cette nouvelle réglementation. Et donc j'avais pas mal de données en tête, et je suis vraiment passé dans le petit trou de la serrure par toutes les possibilités.
Oui, parce que tu avais une fine connaissance de l'administration, travailleur social, etc.
Et j'ai eu la surprise de découvrir que j'avais automatiquement ma carte de statut d'artiste plus, parce qu'il y a ce cycle de... Alors c'est souvent un cycle de 3 ans et un cycle de 5 ans. Ouais. Le cycle de 5 ans, c'est la reconnaissance par les pairs, et un peu plus que les pairs, parce qu'il y a des syndicats et il y a des membres de l'administration ou dans une commission.
Donc tu es couvert, tu as des revenus sur 3 ans, là, sur ce cycle-là, c'est ça?
Oui.
Voilà. Et après, tu as le cycle 5 ans, donc qui repose...
Et donc au bout de 3 ans, ici, au mois de juillet...
Parce que c'est pas qu'un an, là, un an, c'est un an en France. Hein.
Donc, ici, au mois de juillet, je dois reprouver à l'ONEM, c'est-à-dire... le pôle emploi chez vous qui a changé de nom. Voilà. Et donc je dois prouver à cet équivalent belge que j'ai travaillé, je crois, l'équivalent de une moyenne de 5000 euros par an chaque année. Hein, quelque chose de ce genre-là. Ce qui en termes de jours, bah, il faut le diviser par 80 et vous l'avez.
Et rapidement, peut-être, si on a terminé sur peut-être la configuration très avantageuse par rapport à ce que nous, on connaît en France, en quoi, toi, ça te permet de travailler un peu tout ça? Qu'est-ce que ça te permet aujourd'hui? Comment ça te facilite la pratique, pour le rendre concret, peut-être?
En fait, c'est ça et pas que ça, parce que notamment, je fais un travail... dans le cadre de la démocratisation culturelle, de création artistique avec des populations, avec des publics participants qui ne sont pas des acteurs professionnels, et de créer des spectacles avec eux. Et donc, par ce biais-là, ça me fait une rémunération de théâtre-action, de metteur en scène. Et donc, ça me permet de compléter, d'avoir les jours garantis. Mais même pour les autres, pour des artistes qui ne font pas ce genre d'activité en plus, si j'ai une année qui est peu productive, je ne suis pas en drame l'année suivante. Je sais que je dois préparer plus de tournées l'année suivante, je dois préparer plus de jours. Si j'ai une formule qui ne fonctionne pas forcément bien au niveau économique, parce que notamment quand on a commencé à tourner au chapeau, on s'est rendu compte qu'on avait une moyenne de 5 euros, ce n'était pas suffisant. Donc on a commencé à mettre un prix libre, mais indiqué. Et ça, là, on est monté jusqu'à une moyenne de 10 euros. Ce qui fait que dans un village où il y a 35 spectateurs qui viennent, parfois toute la totalité du village, hein, 350 spectateurs, on joue parfois dans des villages de cette taille. Ben, on a nos 350 euros, et avec ces 350 euros, on a de quoi payer un cachet d'artiste qui comprend ben, les charges patronales, parce que ça passe par une assoce, qui comprend ce que vous appelez l'URSSAF, et ce que vous appelez aussi le prélèvement à la source, qui est systématique en Belgique pour tous les salariés.
Enfin, pour dire globalement, c'est qu'en gros, ce système-là te permet d'expérimenter ce nouveau métier d'artiste en transition, quoi, en gros, quoi. D'avoir un peu la latitude pour expérimenter. Et de ne pas te dire que si je me plante sur une formule, mais là, c'est...
Si je me plante cet été, je peux me rattraper l'année d'après. Okay. Et ça, c'est pris. Enfin, au niveau du stress, c'est tout à fait. Là, pour le mois de juillet, donc c'est mon moment de renouvellement, j'ai déjà 120% de ce que je dois avoir normalement. Donc, je m'inquiète pas. Si même je ne fais rien cette année, j'ai mon renouvellement qui arrive. Mon but, c'est pas de rien faire. Ça ne devra pas. Mais...
Merci beaucoup, Stéphane. On enchaîne avec Pierre. Pierre, avant de présenter nos travaux, parce que en fait, quand on a discuté, il m'a dit « Ah, j'ai des résultats de travaux à montrer qui sont hyper intéressants. » Juste un petit point quand même sur ce que l'on appelle les artistes ordinaires peut-être. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que ça t'évoque toi dans tes travaux ? Donc toi, tu es sociologue du travail sur la question notamment des artistes ordinaires, plutôt du spectacle vivant. Et pourquoi ce mot « ordinaire » quoi ? Qu'est-ce que ça vient charrier comme question ?
Alors, merci beaucoup pour l'introduction, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, effectivement, ce que j'avais envie de vous parler aujourd'hui, c'est comment est-ce que cette question des enjeux écologiques, de transition à mode doux, en fait, d'un point de vue de sociologie du travail, et d'un point de vue de prise en compte du travail en général, en fait, eh bien, ces enjeux-là, ils interfèrent, en fait, avec des logiques de consécration professionnelle, et que, à mon sens, une réflexion approfondie sur la diffusion de ces modes doux doit nécessairement prendre en compte ces logiques particulières au travail artistique et surtout à celui que je vais appeler donc, le travail artistique ordinaire. Alors, ce n'est pas un jugement de valeur, bien sûr. C'est un concept qui a été plutôt développé par un collègue et moi avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui s'appelle donc, Marc Pernoud. Et ça désigne grosso modo l'ensemble des personnes qui vivent ou essayent de vivre de leur pratique culturelle et qui sont donc ni riches ni célèbres, mais qui produisent au bas mot 80% de la matière culturelle diffusée, produite, etc. Donc ça paraît, je veux dire, c'est l'écrasante majorité des personnes qui participent à la production des biens culturels. Ces personnes-là, eh bien, ce sont des personnes qui, finalement, sont assez peu prises en considération comme telles, puisque le monde professionnel artistique est quand même souvent appréhendé, que ce soit par les institutions, que ce soit par les grands médias, à travers des figures un peu, justement, qui sont en fait exceptionnelles, des figures qui sortent un peu du lot, qui font des carrières considérées comme belles, etc., et en fait qui invisibilisent l'écrasante majorité.
Et donc la condition ordinaire de travail. Et laquelle est-elle, cette condition ordinaire de travail ?
Eh bien, merci pour cette excellente question. Ça serait bien, c'est strict. Ces artistes ordinaires, alors nous, on a beaucoup travaillé sur les musiciens ordinaires, mais grosso modo sur les artistes du spectacle vivant, il y a deux pôles de stabilité. Donc c'est une profession qui est, bien sûr, relativement incertaine sous plein d'aspects, et il y a quand même deux grands pôles de stabilité qui, en fait, vous verrez, en fait, se déclinent, entraînent des déclinaisons de deux espaces de circulation des personnes qui travaillent. Alors, c'est quoi ces deux pôles de stabilité ? Alors, il y a un premier pôle qui est de faire une carrière locale. Donc une carrière locale, c'est quoi ? Ben, c'est de jouer principalement, en fait, au moins dans la région dans laquelle on habite, de nouer des alliances avec des institutions proches, des institutions qui gèrent le territoire, qui peuvent ouvrir à des types de contrats pour des fois faire qui relève plutôt de l'animation socioculturelle que ces artistes ordinaires locaux sont dans un rapport à leur pratique qui relève pas uniquement de la création mais aussi de l'artisanat. L'idée, c'est aussi de faire des choses qui soient belles et utiles aussi pour les personnes autour du calendrier. Voilà, donc ça c'est un premier pôle de stabilisation. Et il y a un deuxième pôle de stabilisation qui est la carrière qu'on a appelée, que Marc Pernoud appelle cosmopolite, dans lequel là les sources d'emploi sont hors de la région qu'on habite, sont tournées plutôt vers les institutions à rayonnement national ou international, qui sont plus électives a priori, et dans lesquelles sont plus mises en valeur le travail de création. L'exemple que donnait avec Carole tout à l'heure sur le fait d'aller vers la DRAC, qui est plutôt ce genre d'institution-là, en lui proposant un projet plutôt tourné vers le développement local pour les arguments, il y a une incompréhension parce qu'en fait, c'est a priori, c'est pas comme ça qu'il se construit. Voilà. Et donc ça, vous voyez que ça fait des verrous, ça fait des freins ou pas. Voilà, donc il n'y a pas de hiérarchie a priori entre ces deux types de carrières. On peut juste dire peut-être que la carrière des cosmopolites, elle est peut-être un peu plus rentable symboliquement du point de vue de la légitimité culturelle. Voilà, c'est aussi un peu ce que tout à l'heure pointait avec ton interaction avec la. Donc voilà, alors, ces choses-là, c'est des choses qu'on retrouve en France, mais nous on a travaillé en Belgique, en Suisse, au Chili, on a travaillé aussi avec des collègues, enfin, grosso modo, cette polarisation, on la retrouve dans la plupart des sociétés industrielles, capitalistes, contemporaines, dès lors qu'on fait du travail artistique et surtout.
Ah ouais. C'est généralisable à l'international.
Ça, c'est quoi. Quelque chose de vraiment très. Après, ces différents pôles, ils se structurent un peu différemment en fonction notamment des formes de régulation de l'État, donc ça, je ne vais pas en parler là tout de suite, on pourra peut-être y revenir après, mais c'est quelque chose voilà, qui a vraiment qui a une grille de lecture assez transversale, on va dire. Alors là, je vais vous présenter rapidement parce que moi, dans mon travail, j'apporte un soin particulier à la création de consensus autour de l'administration de la top. Voilà. C'est vraiment un truc qui est très. Donc je pense que c'est important d'avoir ce genre d'outils que j'ai représenté là pour créer quelque chose autour duquel on est tous d'accord et autour duquel on peut prendre des décisions. Voilà. Donc là, ce que je vous présente rapidement, c'est un travail qui est issu d'une base de données qu'on a constituée qui est tirée d'un site qui s'appelle les Archives du spectacle vivant. Donc je vous invite à aller voir. C'est un site collaboratif en fait. Qui recense la plupart des programmes, vraiment plein d'institutions, ça va de l'opéra à la petite salle communale locale, et de façon relativement exhaustive, sur, grosso modo, la plupart des pays francophones. Voilà. Et donc notre idée, en allant fouiller dans cette base-là, c'était d'aller voir, on travaille depuis la Suisse, nous, on travaille, les types de circulation des productions suisses, et vous voyez que, vous allez voir que très vite, en fait, ça a des conséquences. On peut penser ça du point de vue des réflexions qu'on a aujourd'hui. Donc, grosso modo, là, je vous présente l'espace de circulation des productions suisses romandes de spectacles vivants, spécialement le théâtre et la danse. À peu près 8000 productions, là, entre 2009 et 2019, on est pré-Covid. Hein, on n'a pas refait le travail post-Covid. Et on identifie, vous voyez, les différents lieux dans lesquels ces productions sont programmées. Donc plus le lieu, plus le point est grand, plus la ville a des lieux dans lesquels beaucoup de productions suisses romandes ont été programmées. Okay, donc les plus grosses villes, il y en a plus de 1000, et les toutes petites villes, en fait, il y en a moins. Donc la taille ici des points représente cela, et les liens entre les différents points représentent des coproductions. C'est-à-dire en fait on peut mapper, cartographier comment ces productions circulent et comment, bien sûr, les personnes qui travaillent dans ces productions circulent. Et dernière clé de lecture, les couleurs ici représentent le niveau de concentration territoriale des lieux qui programment nos productions. Donc qu'est-ce qu'on voit là ici? On voit qu'effectivement, il y a une polarisation, vous voyez, entre un espace de production, de circulation relativement local, donc vous voyez autour de l'Arc Lémanique ici, un peu autour du lac de Neuchâtel, et donc vous voyez, avec un premier nu ici. Et ce qu'on voit aussi, c'est que le monde francophone des jeux qui font parce qu'en fait, ça ne se réduit pas qu'à la France, Paris est vraiment un pôle important pour l'ensemble de la création et c'est très bien ce qu'on voit ici, c'est que là il y a un pôle d'attirance, on va dire, vous voyez, de certaines productions suisses romandes qui se voit bien là. Donc là vous voyez, on a bien notre polarisation dont je vous parlais entre des carrières qui vont être un peu plus locales ici et des carrières un peu plus locales. Alors ce qui est intéressant de voir ici, c'est que ces deux types de carrières-là, quand on va essayer d'aller chercher, est-ce que là, dans toutes mes productions, est-ce qu'il y a des lieux qui sont un peu plus souvent en lien les uns avec les autres que d'autres? Et là, on peut faire un travail, alors c'est un travail statistique de détection, de communauté, on appelle ça. Eh bien, on peut aller voir, est-ce que cette opposition-là, on la retrouve dans toutes les carrières? Eh bien non, on ne rentre pas dans toutes les carrières. Là ici, vous voyez, on a un ensemble de carrières qui se distinguent. Donc là, vous ne voyez pas trop, mais c'est autour de, je ne sais plus, c'est 30%, je crois, qui va être presque exclusivement tourné vers la diffusion internationale, au-delà du cercle du cercle régional, oui, avec Avignon aussi qui apparaît du coup sur cette carte-là, et Paris, voilà. Donc ça c'est grosso modo 30% des personnes. Ici on a quand même des personnes qui vont être 50-60% qui vont être uniquement centrées sur la Clémanique et la région de la Suisse romande, vous voyez ici. Et ici, un petit ensemble de personnes qui est un peu à cheval entre les deux. Et là, si on a fait de la sociologie après un peu plus poussée, eh bien on se rend compte que si on va chercher les profils sociaux de ces différentes personnes-là, eh bien c'est pas les mêmes. Ici, on aura sûrement on a plus de personnes qui sont diplômées d'école d'art ou d'université, etc. Ici, beaucoup moins. La partition genrée n'est pas exactement la même. Alors, un peu contre-intuitivement, sur ce genre de carrière, on trouve un peu plus tendanciellement de femmes que d'hommes, mais pas, de femmes, pardon, ici que là, parce que notamment, il y a tout un enjeu d'accumulation de capital scolaire, donc d'avoir fait des études, qui est un peu plus courant chez les femmes artistes que. Voilà, donc tout ça, c'est pour que vous. On est bien, enfin, que dès lors qu'on va parler de ces questions-là, eh bien, de ces questions de repenser les mobilités, etc., eh bien, vous voyez qu'il faut voir que derrière, on a des profils de carrière professionnelle, des profils sociologiques qui ne sont pas les mêmes. Et donc, trouver un terrain d'entente commun pour parler à tout le monde, ce n'est pas évident. Bouger de plus en plus loin, donc hein, c'est tendanciellement, vous avez vu, le fait des cosmopolites, hein, et vous voyez que pour des cosmopolites qui voudraient réintégrer le local, par exemple, vous imaginez aussi que ça va avoir un import dans l'espace local, de pratiques qui avaient plutôt lieu dans des lieux de diffusion nationale et internationale, qui vont remodeler aussi les équilibres locaux entre ces nouveaux arrivants qui importent des pratiques. Des représentations de la liste plutôt en usage dans ces lieux de diffusion à vocation internationale et nationale, dans le local, et bon, des frictions aussi forcément entre des personnes qui étaient là avant, qui vont être peut-être un peu regardisées par rapport à d'autres qui arrivent avec d'autres types de capitaux.
Il y a des enjeux de lutte derrière aussi. Exactement. Pour la reconnaissance en tant que... Qu'est-ce que c'est qu'un vrai artiste derrière qui se joue de cette manière-là, ouais.
Voilà. Donc c'était un peu ça
c'est que super.
Je voulais vous partager aujourd'hui.
Parce que ça rentre évidemment en lien avec les enjeux de mobilité. Parce que si on voit que, au lieu de dire niveau de reconnaissance, mais la forme de reconnaissance est indexée pratiquement au kilomètre, on pourrait dire. Bon, c'est, en tout cas, au fait qu'on soit plutôt territorialisé ou non cosmopolite, comme tu le dis, effectivement, il fallait le montrer, hein, c'était important de le montrer. Et on voit bien les liens qu'il peut y avoir avec le mode doux et l'aspect justement territorialisation et de ce que ça dit sur nos artistes qui le pratiquent ou qui la pratiquent, quoi. En tout cas, des enjeux, quoi. Merci beaucoup pour ce résultat, cette présentation de résultat, c'est vraiment super, quoi. Merci Pierre. Donc on enchaîne. Donc là, plutôt sur la dimension politique de la chose, on a bien constaté les problèmes, là. Oui. Bon, je pense que c'est relativement clair pour tout le monde. Ça l'était peut-être avant aussi, mais au moins là, voilà, on a rappelé peut-être le béaba. Alors, Monique DeMarco, vous êtes sénatrice, donc écolo à la Gironde, hein, il me semble. Oui. Voilà. Et en fait, il me semblait important que vous veniez parler, tout simplement parce que vous avez proposé avec Aurélien Catin notamment, qui a travaillé sur ce projet de loi, donc un projet de loi durant le vote des budgets, donc à un moment spécifique, sur la continuité des revenus chez les artistes auteurs et autrices, quoi. Donc là, on sait bien qu'en Belgique, ils sont couverts par le régime de l'intermittence. Ils ne le sont pas du tout, en tout cas en France, c'est certain. Ce qui était intéressant, en fait, je trouvais, c'est que certes, les artistes qui font de la mobilité douce ici sont plutôt dans l'intermittence, Et donc ne sont pas directement, enfin peuvent être concernés par la question des droits d'auteur bien évidemment et d'autrice, mais ce qui m'intéresse surtout spécifiquement, c'est de voir qu'il est possible quand même de faire une proposition de loi sur la question de la reconnaissance du travail artistique, quoi, en fait. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur comment elle est venue, cette proposition de loi, et comment vous l'avez travaillée, quelle était l'idée derrière, quoi, à quel moment elle est arrivée, cette proposition de loi, s'il vous plaît.
Merci, écoutez, merci de m'avoir invité, parce que moi je suis toujours ravie de venir donc exposer un petit peu quelques possibilités que nous avons au niveau du Parlement. Donc je suis sénatrice de la Gironde, sénatrice écologiste, nous sommes 6 sénateurs, et j'appartiens à un petit groupe au Sénat, c'est important de le dire, qui est le plus petit groupe du Sénat. Nous sommes 16 seulement sénateur écologiste sur 348. Oui. Donc à une très forte majorité, donc de droite, 136 de droite et 50 Union centriste qui votent comme la droite environ. Donc nous sommes très très minoritaires, voilà. Tout ça, et il y a très très peu de textes au Sénat, très peu d'intérêt sur tout ce qui est culture, à part quand on discute du budget. Alors le budget, tous les ans, etc. On essaye donc de débattre et de maintenir donc le budget culture, ce qui n'est pas facile. C'est le seul endroit où, seul moment au Sénat, c'est-à-dire vers le mois d'octobre, où on discute justement un peu de culture. Et il y a très peu, mais pratiquement pas de textes concernant donc la culture au Sénat, si ce n'est donc la reconstitution des œuvres spoliées. Et là, prochainement, s'il vient avoir un texte qui va discuter, c'est intelligence artificielle et création, qui va arriver prochainement et qui me paraît quand même assez important, au moins de commencer à parler de ce sujet. Autrement, il ne se passe rien. En réalité, je dois remercier quand même le groupe d'artistes et les syndicats qui se sont emparés de ce sujet. C'était suite à au Covid. Donc, vous avez commencé à travailler, je m'adresse à Aurélien, qui a été donc quelqu'un qui m'a pas mal sollicité avec d'autres sur, je dis souvent harcelé quelquefois, mais bon, j'étais tout à fait conquis à cette cause, sachant qu'ils ont travaillé sur une proposition de loi vraiment pour acter de façon législative une reconnaissance donc des artistes auteurs en France et de façon à avoir ce qu'on appelle cette continuité de revenus, c'est-à-dire ce droit au chômage. Qui est entre deux phases de création. Ils sont donc été en 2000, ils sont d'abord adressés donc à l'Assemblée nationale, un député, que je souhaite quand même saluer, Pierre Darreville, qui était député PC, qui a déposé un texte, et celui-ci n'a pas été réélu, avec donc il n'est plus donc député, et ils se sont donc dirigés vers moi pour que je puisse reprendre son texte. Et donc un texte, là, il faut me convaincre, il faut voir comment on peut justement, après, convaincre les autres, c'est-à-dire que notre travail en tant que parlementaire, quand on a déposé ce texte, que l'on a commencé à discuter, de voir les tenants et les aboutissants, il faut faire un petit peu ce qu'on appelle du commercial, c'est-à-dire aller voir d'autres parlementaires, d'autres sénateurs, pour essayer de convaincre du bien fondé. Ouais. Donc pour cela, j'avais fait un petit document que j'ai laissé à l'entrée. Voilà.
Trop bien.
Alors ceux qui n'ont pas assez, je pourrais leur redonner. Pour essayer donc de mettre noir sur blanc un petit peu quel est ce texte, comment on peut justement financer cette continuité de revenus, à quelles conditions, etc. Et avec ça, avec ce document, cette base-là, je me suis adressée à plusieurs parlementaires et j'ai réussi à associer, bien sûr, le PC, le Parti communiste et le PS, à ce texte, mais également donc deux ou trois personnes Union centriste, deux ou trois personnes donc républicains, qui étaient sensibles justement aux conditions donc des artistes-auteurs. Et donc ce travail-là pouvait dire que ce texte était transpartisan. Voilà, c'est un gros mot, grand mot transpartisan, c'est parce que j'ai réussi à avoir 10 personnes qui étaient plutôt au centre ou à droite, ouais, sur ce texte-là. Mais après, ça ne suffit pas. Quand il faut que le texte... Alors, je vous explique, il ne suffit pas de déposer quelque chose. Il y a beaucoup de textes qui sont déposés, mais il faut qu'ils soient inscrits à l'ordre du jour au Sénat. Et pour être inscrit, je ne pouvais pas être inscrit dans le cadre transpartisan parce que je n'avais pas assez de soutien. Et nous avons droit, chaque groupe politique, à un petit moment au Sénat qui s'appelle une niche parlementaire, qui est pour le groupe écologiste de 4 heures tous les semestres, ce qui est peu. 4 heures, ça permet d'inscrire 2 textes. Et maintenant, il fallait que j'arrive à convaincre donc le groupe écologiste de déposer ce texte-là. Donc, et ça a été fait donc pour au mois de décembre de cette année. Le texte a été déposé au nom de la niche parlementaire du groupe écologiste pour pouvoir être débattu.
Ça me paraît quand même intéressant de rajouter un peu au contexte que, bon, déjà, c'est un travail collectif, oui, là, avec des militants qui travaillent sur cette question-là depuis un moment, qui ont formulé des propositions politiques, et donc ça s'est fait conjointement de cette manière-là. Donc ça veut dire que c'est des artistes qui se sont engagés dans cette voie, et on voit bien que ça peut arriver jusqu'à une niche, et donc ça c'est quand même assez incroyable. Quand même, je voudrais juste rappeler le contexte, qui me semble, il y a eu un scandale aussi à ce moment-là. C'est le scandale de l'AGESA, en arrière-plan. Donc pendant 40 ans, 190 000 artistes auteurs ont été privés de leur droit à la retraite. Je crois que c'était ça. Donc le scandale a été discuté, il me semble, dans le débat public.
Un mois avant.
Là, on était sur les votes du budget, et vous êtes intervenu à ce moment-là avec ce projet de loi. Je pense qu'il faut le rappeler, ça, non ?
Oui, alors, bon, c'est assez compliqué, oui, effectivement. Oui. Avant le budget, il y avait le texte sur la sécurité sociale.
Voilà.
Donc, texte à sécurité sociale, enfin, est arrivé dans l'article 5 du texte à sécurité sociale, la problématique, justement, des artistes-auteurs qui avaient été pénalisés, etc., qui avaient croyé avoir, donc, cotisé sur la retraite, et qui en définitive cet organisme, l'AGESA, n'avait pas du tout prélevé les montants, et se sont retrouvés sans avoir de possibilité d'avoir une retraite qui leur était due. Donc ça s'est arrivé un mois ou deux mois avant, ce scandale a rejailli lors du débat au Sénat, sachant que, en définitive, malheureusement, les amendements que j'avais déposés pour pouvoir faire une reconnaissance, etc., sur cet nouvel organisme qui est des élections professionnelles, etc., tous les amendements que j'ai déposés, qui étaient aussi soutenus parce que les artistes-auteurs, les syndicats m'ont toujours tenu au courant et m'ont toujours accompagné pour avoir des arguments. Nous, on est parlementaires, mais on n'est pas toujours au fait de tous les sujets. Donc quand même, je dois reconnaître que eux, ont été très diligents pour nous accompagner, mais nous, au Sénat, tout ça, ça a été retoqué, et c'est reparti à l'Assemblée nationale, donc où, finalement, à l'Assemblée nationale, malgré ce qu'on peut imaginer, il y a une majorité pour remettre un petit peu ce texte, tout ça, tel qu'il aurait dû être, concernant les artistes-auteurs pour voler sécurité sociale. Ensuite, un texte, je me permets de continuer.
Bien sûr, bien sûr.
Donc, le problème de mon texte, ma proposition de loi, c'était prévisible, n'a pas été finalement voté. C'est-à-dire que au Sénat, alors c'est pareil, c'est pas comme à l'Assemblée nationale, les gens ne savent pas. À l'Assemblée nationale, vous êtes présent, vous votez bien sûr, et vous avez droit à un pouvoir de vote. Voilà. Donc au Sénat, nous, on a. C'est tout à fait différent le fonctionnement. C'est-à-dire que vous n'êtes un présent peut voter par le vote électronique, par exemple les Républicains, pour 136 personnes, pour tout son groupe politique. Et alors, mon texte avec les amendements que j'avais déposés, parce qu'ensuite je parlais bien sûr, le problème était comment financer ceci, donc j'ai déposé des amendements concernant le financement. Il y avait dans l'hémicycle, et ce que je trouvais ça scandaleux, tu étais présent je crois, vous avez visionné, il y avait un seul républicain, un seul, qui était présent sur les bancs, c'était la veille des vacances de Noël. Il a voté, donc mes amendements qui ont été déposés ont tous été votés à l'unanimité, etc. Mais au final, le texte, comme il était présent, il a donc voté pour les 136 membres, tout ça, il a voté contre tout seul. Et l'Union centriste, qui était présent alors qu'il devait s'abstenir, ont voté contre également. Donc ce qui fait que mon texte a été rejeté. Mais comme je dis, rien n'est jamais perdu, et je peux rembrayer, puisque lundi j'étais à l'Assemblée nationale avec les auteurs de bandes dessinées qui revenaient sur un travail qu'ils ont fait, l'élaboration, savoir les conditions de travail, etc., des auteurs de bandes dessinées. Et il y avait présent, donc, c'était à l'initiative de deux parlementaires, donc une parlementaire du groupe PC, Sonia Bouaha, et une parlementaire du groupe Renaissance, qui a été nommée à cette commission culture à l'Assemblée nationale. Et avec elle, nous avons décidé donc d'essayer de relancer au niveau de l'Assemblée nationale ce texte, puisqu'il faut qu'un texte puisse être. Doit être votée par les deux assemblées. Donc rien n'est jamais perdu, parce que je pense qu'elles sont convaincues du bien fondé de ce texte-là. Bon, quoi qu'il y ait quelques nuances avec la députée du groupe naissance, mais il est fort possible que ce texte ait une deuxième vie et revienne donc dans l'actualité.
Voilà. Bah, c'est super de dire ça, parce qu'effectivement, on voit bien qu'on pourrait se dire « Ah, mais ça ne marchera jamais, les forces sont trop adverses, on est minoritaire, effectivement, au Sénat », mais on voit bien que tout ce travail qui est fait déjà en amont et qui se répercute après politiquement dans les institutions, voilà, tant que le problème n'est pas réglé, effectivement, on peut revenir à la charge et ce n'est jamais un travail perdu, quoi.
Ouais. Ah non, mais c'est jamais un travail perdu, parce que... Il y a eu une très très forte mobilisation. Les sénateurs ont senti, enfin, se sont considérés comme harcelés, puisque cette mobilisation, tous ces artistes auteurs de tous les départements auxquels correspond, hein, parce qu'un sénateur, c'est un sénateur d'un département, donc tous les artistes auteurs des départements ont interpellé leurs sénateurs pour leur dire ce texte-là, tout ça, nous avons besoin de ce texte parce que. Nous sommes dans une grande précarité et on a besoin donc de cette continuité de revenus parce que ce qui se passe est totalement injuste. On s'est appuyé également sur ce qui se passait en Belgique, également pour essayer de convaincre. Ce qui aussi a été voté en Irlande également, qui est un peu différent, mais enfin toujours, ça nous permet donc de se dire, écoutez, la France accepte son culturel, etc. On se doit de protéger nos artistes auteurs. Regardez ce qui se fait dans d'autres pays, etc., en Europe, ça commence donc à prendre forme, puisque, donc, en définitive, on est très attentif à ce qui se passe dans d'autres pays européens.
D'accord. Merci beaucoup, Monique. Et donc, nous allons terminer cette table ronde par Aurélien Catin. Donc, voilà, on a bien compris que tu étais... t'étais à la base militante, hein, notamment, avec tes collègues qui ont permis de pousser... pour que ce projet de loi arrive en niche au Sénat. Donc toi, tu es artiste-auteur, tu es aussi militant politique. Alors, donc, tu es au collectif notamment à la Buse, je te laisse te présenter, mais aussi tu as fait un travail avec Réseau Salaria, et c'est de ça dont on va parler avec Réseau Salaria. Déjà, voilà, est-ce que tu peux te présenter, dire d'où t'en est venu, voilà, cet engagement, d'où il est venu cet engagement.
Déjà, bonjour. Merci pour cet échange et merci à Manuel pour l'invitation et la conduite de la discussion. Effectivement, je suis artiste-auteur, c'est mon régime de sécurité sociale. Hein, on reviendra peut-être sur ce terme si on a le temps. Mon métier, plus précisément, on va dire que c'est auteur. Moi, j'écris, je suis travailleur du texte, quoi, pour employer une expression un peu plus politique. Initialement, dans de la littérature, des formes courtes, enfin, des choses assez marginales dans le paysage littéraire. Aujourd'hui, depuis 5 ans, essentiellement producteur d'écrits politiques, hein, que ce soit des bouquins, des articles, des conférences et autres textes militants qui, en général, pour le coup, sont signés collectivement et évidemment pas de mon nom, mais auxquels je contribue avec plaisir.
Oui, notamment un livre, Notre Condition, voilà, qui, alors il est plus, je crois, imprimé aujourd'hui, mais il est en PDF.
Pardon.
Mais il vaut mieux l'avoir imprimé, c'est quand même plus sympa.
Mais le PDF, ouais. Le PDF en accès libre sur le site de la maison d'édition. Riot Edition, bien sûr. Et aujourd'hui, donc, mon travail d'écriture se mêle largement à mon travail militant. Alors, militant politique au sens large, hein, c'est pas politique au sens où je serais inscrit dans un parti ou un mouvement, mais par contre, je suis syndicaliste et je travaille ces questions de transformation structurelle de l'économie culturelle. C'est là où je me trouve, au travers de collectifs comme la LUS, qui est plutôt ancré dans le champ des arts plastiques, ou Réseau Salaria, qui est une asso d'éducation populaire, qui ne parle pas spécifiquement de la culture, hein, mais qui parle du travail en général.
Et alors là, bon, ça me semblait très intéressant de discuter avec toi, c'était justement sur les perspectives politiques que tu défends autour de ça, parce que on voit bien que le parcours de ces artistes-là a été, comment dire, ils faisaient obstacle à des verrous, hein, certains. Donc on voit bien qu'il y avait une volonté de travailler autrement, qu'ils essayent d'expérimenter, mais qu'ils sont largement entravés. On en a les logiques de programmation, bien évidemment, les logiques de reconnaissance qui ne sont pas ajustées au travail réel. On a parlé de conditions d'artistes ordinaires, donc on a bien dit que la multi-activité, la pluriactivité était plutôt l'ordinaire de la condition artistique et non pas l'artiste dans sa tour d'ivoire ou voilà, dans son coin solitaire qui accepterait la précarité au nom de l'amour de l'art, etc. En fait, j'aimerais savoir, toi, parce que il me semble que c'est pas tant l'écologie en tant que telle qui est intéressante, mais c'est plutôt comment on voudrait travailler, qui permettent justement aussi de prendre en compte ces enjeux-là, mais qui ne peuvent pas sortir la question du lien social, du social, la place de l'artiste dans la société. Et en fait, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quelle est ta proposition, qu'est-ce que tu envisages, toi, notamment avec Réseau Salariat, qu'est-ce que c'est que cette sécurité sociale de la culture. Alors voilà, je dis le mot, mais en quoi ça permettrait aux artistes de décider de la manière dont ils pourraient travailler, quoi. Qu'est-ce qui est, comment c'est pensé derrière cette chose-là?
C'est un très très gros sujet pour 5 minutes.
On n'a pas 5 minutes, on a un peu plus, on a un quart d'heure encore.
Je ne vais pas monopoliser tout le quart d'heure. L'idée de sécurité sociale de la culture, c'est deux choses. C'est à la fois la transformation du statut des travailleurs et travailleuses de l'art. D'ailleurs, je veux dire travailleureuse, c'est rapide pour la suite. Par un changement du paradigme du travail, c'est-à-dire dans le travail tel qu'il est organisé dans le capitalisme, le salaire, la rémunération hein, au sens large, c'est le résultat, c'est la contrepartie d'une activité subordonnée ou le résultat d'un acte marchand. L'idée du salaire à vie que je porte à Réseau Salariat avec d'autres camarades, c'est de faire du salaire un droit politique, un droit de la personne, au même titre qu'on a le droit de voter à 18 ans, ou l'éligibilité.
Donc vous inversez la logique, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas pour gagner de l'argent, mais on doit nous garantir les conditions de vie pour pouvoir travailler. On pourrait te dire, les gens, ils vont rien branler.
C'est une des premières choses à faire, bien sûr ça ne suffit pas du tout, hein, mais en tout cas le salaire comme condition d'un travail libéré de la subordination, ce qui ne veut pas dire libéré d'une organisation collective, hein, il faut une organisation collective du travail, mais en tout cas libéré de cette logique de subordination très forte dans l'emploi ou qui s'exprime de manière totalement détournée sur le marché de l'art par exemple, ça me paraît évidemment une condition importante, non suffisante mais importante, d'une possibilité d'intervention collective large pour transformer la production culturelle, notamment, c'est inclus dans nos réflexions, même si franchement on n'est pas très avancé sur cette problématique, on le reconnaît, mais notamment dans le sens d'une bifurcation écologique, puisque le travail culturel, la production, la diffusion culturelle a sa part dans le désastre environnemental actuel. Hein. C'est mesuré, ça.
Du coup, le double intérêt aussi que tu rencontres, je suppose, pour donner de la chair à ces propositions, des personnes qui la pratiquent, cette transition, je suppose aussi. Quoi.
L'idée, alors, donc, il y a une partie sur la transformation du statut qui est ma lecture de la continuité de revenus pour les artistes autoristes, c'est-à-dire d'aller vers un salaire qui soit attaché à la personne, même si c'est partiel, dans le cadre d'une intermittence, d'un statut de l'allocation du travail des arts en Belgique ou de la continuité de revenus, mais de commencer à faire un pas décisif vers une forme de garantie du salaire collectif, politique. Et puis ensuite, il y a la réorganisation, je ne vais pas avoir le temps du tout d'expliquer comment ça fonctionnait, mais la réorganisation du tissu de la production artistique à travers une mise en sécurité sociale, un peu sur le modèle de ce qu'on a fait pour la santé dans les décennies qu'on suivit.
C'est ça que tu dis, c'est que ce n'est pas hypothétique en fait, ce n'est pas une projection dans quelque chose qui serait purement fantasmé, c'est-à-dire que vous vous reposez sur un déjà-là qui a déjà été fait. Quoi.
On s'appuie sur des expériences populaires de grande ampleur, qui ont déjà fait la preuve de leur efficacité pour se passer à la fois du capital et à la fois pour redonner du pouvoir aux travailleurs sur leur
activité. Ce qui a permis qu'on ait pu avoir jusqu'en 1980 l'hôpital le plus performant du monde, je crois.
Hein, c'était ça. Qui n'a pas trop mal fonctionné du côté de la santé, effectivement, malgré des limites évidentes, notamment du côté du médicament, qui a toujours été plus ou moins marchand. Mais voilà, en tout cas, l'idée, c'est à la fois de s'appuyer sur des institutions qui ont fait la preuve de leur force, politique, et en même temps de s'appuyer sur un tissu déjà existant. Moi, je fais partie de... Je me définirais volontiers comme auteur ordinaire. Hein. Je fais partie de ma sociabilité artistique, c'est plutôt ces artistes ordinaires qui, on est bien d'accord, et c'est documenté grâce à des travaux comme ceux de Pierre, qui réalisent l'essentiel en fait de l'activité artistique, de la production culturelle sur le territoire aujourd'hui, et qui pourtant le font dans des conditions où ils vivotent, ils surnagent, ils bricolent, on connaît tout ça. Donc c'est de s'appuyer sur ce tissu déjà existant, sur cette production existante, pour à la fois lui donner les moyens de développer son activité convenablement, mais aussi lui donner les moyens de décider de la production. Ça va avec des droits, il n'y a pas que le salaire, tout ça est...
Alors comment ça marche, ça ? Je sais qu'on n'a pas... On peut peut-être un peu développer là-dessus, je pense qu'on serait vraiment curieux de savoir comment on regagne des droits sur ce que l'on veut faire, comment ça se passe. Je crois qu'il y a le système de la qualification, il me semble.
Ça, c'est un peu lointain.
D'accord.
Je dirais pour l'instant. Si je vais repartir d'un truc très trivial, c'est-à-dire la situation actuelle des artistes, auteurs et autrices, et puis j'aurai pas le temps d'aller trop loin dans la démonstration, mais aujourd'hui, ce sont des travailleuses qui sont absolument pieds et poings liés avec les logiques de production majoritaire, on va dire capitaliste, pour faire politique. La première source de revenus des artistes-auteurs, historiquement, c'est le droit d'auteur, qui est une rémunération patrimoniale. Ce que ça veut dire, c'est que je ne suis pas payé comme travailleur, je suis payé comme propriétaire d'une œuvre. Et si cette œuvre, qui devient mon patrimoine, fructifie sur un marché, ça va peut-être me rapporter une rente qu'on appelle couramment le droit d'auteur. Ce qui veut dire qu'il faut que cette œuvre soit valorisée à une échelle maximale, si possible internationale, pour que j'en tire des ressources importantes. Donc ça nous met dans la main en fait, de réseaux de diffusion, notamment, je pense à la musique, hein, à SACEM, aux majors, etc., qui sont absolument antagoniques à ce qu'on essaye de discuter comme perspective politique aujourd'hui sur l'environnement. Le deuxième mode de rémunération, c'est ce que j'appelle les honoraires, c'est tout ce qu'on se fait payer sur facture. Aujourd'hui, les artistes auteuristes font des factures en permanence, pour une conférence, une intervention en éducation artistique et culturelle, la vente d'une œuvre unique. Et ça veut dire qu'on est payé à la pièce ou à la tâche. Mode de rémunération canonique dans le capitalisme du 19e siècle, qui nous oblige en fait à multiplier les ventes, à multiplier les interventions, et sans réfléchir à leur sens, sans réfléchir et sans pouvoir...
Un productivisme décélérer. Sans...
Productivisme, on est totalement sensible au productivisme, okay. Et donc on ne peut pas décélérer pour le coup si on décélère.
Il n'y a plus d'artistes.
Il n'y a rien. Enfin, c'est le... Mais bon, je vais pas aller plus loin dans le détail, dans la nuance, mais on va dire ça. Et puis enfin, le dernier mode de rémunération des artistes auteuristes aujourd'hui, ce sont les aides à la création. Les aides à la création qui sont basées sur un postulat assez violent, c'est-à-dire les artistes, ça c'est quand on a une majorité de gauche dans les collectivités ou l'État, les artistes c'est utile, ça fait des trucs sympas, mais c'est incapable, ça gagne pas sa vie, donc on va les aider. Voilà. Et ça nous rend extrêmement sensibles aussi au changement de majorité politique, au changement d'ambiance politique, etc. Donc voilà, on a des artistes qui se sont construits historiquement contre la notion de travail en disant nous sommes libres, le travail, ils avaient des raisons de le dire, est une valeur bourgeoise de la façon dont elle s'est construite au 19e siècle. Nous, c'est la liberté. Et en fait, la liberté aujourd'hui, eh bien, c'est la défendance absolue à des logiques productives, si on veut se professionnaliser, bien sûr, mais à des logiques productives qui nous dégoûtent. C'est-à-dire, moi, je suis entouré d'artistes pour celles et ceux qui tentent de se professionnaliser et de jouer le jeu des réseaux dominants, internationaux, etc., qui sont écœurés, en fait, par les conditions dans lesquelles ils interviennent, par les endroits dans lesquels ils interviennent. Et l'idée, donc, de faire du salaire un droit de la personne, au sens premier pas décisif pour les créateurs et les créatrices d'aller chercher une forme d'intermittence comme droit au salaire, c'est de commencer à redonner du pouvoir sur la production. Mais ça ne va pas suffire. Et ça, vraiment, je ne pense pas avoir le temps de le détailler aujourd'hui. Et c'est tout le projet du salaire à vie qui a été élaboré par un sociologue et économiste qui s'appelle Bernard Friot, qui a été très important dans la constitution de cet assaut au réseau salariat. C'est à ce salaire à vie, c'est d'associer des droits de la même façon qu'on a des droits citoyens et citoyennes inconditionnels. On peut voter qu'on le fasse ou non, on peut être éligible, qu'on participe effectivement ou pas à la vie politique. En tout cas, ce droit, il nous est attaché. Eh bien, il faut qu'il y ait d'autres droits de délibération collective sur le travail,
donc,
sur la production.
Un temps de politique intégrée effectivement
à nos vies. Et ça, c'est quelque chose qu'on détaille dans le projet de sécurité sociale de la culture. Il y a un bouquin qui est sorti aux éditions du Croquant qui s'appelle « Pour une sécurité sociale de la culture ». On n'est pas du tout originaux. Mais si vous tapez ça sur Internet, vous trouverez des vidéos, des articles, des liens vers le bouquin. Enfin, il y a tout ce qui est.
Bon, c'est vraiment passionnant. Je vais déposer une dernière question qui va vous regarder et vous pourrez rebondir avant les questions du public et puis après on mangera parce que je sens que les ventres grouillent, évidemment comme ça, ça gronde à l'intérieur. J'ai juste une question, c'est que effectivement on voit bien artiste ordinaire, donc l'ordinaire des artistes, c'est pas justement le désintéressement, le don de soi, la vision romantique de ce que c'est que la création, etc. Donc l'ordinaire est beaucoup plus banal. Marc Perrenoud parle d'artisans de service, il dit que ça reste des artisans de service. Toi, tu en rabats aussi de cette logique très romantique de ce que c'est que la création, mais qui, quand même, voilà, c'est une norme qui nous permet de définir aujourd'hui ce que c'est qu'un artiste depuis, tu parlais du 19e siècle, 18e, 19e siècle. Est-ce que dans ta logique, est-ce que dans la logique aussi des artistes à mode doux, est-ce que on peut toujours, dans cette logique-là hein, dont tu parles, hein, c'est-à-dire s'il faut vraiment rabattre sur ce truc de désintéressement comme norme suprême, désintéressement, c'est-à-dire des valeurs économiques, hein, l'artiste, en gros, dans sa vision romantique, c'est Baudelaire qui, ou d'autres qui, en gros, s'en remettraient entièrement à son œuvre, quitte à en perdre la santé, quitte à se mettre dans des procès, quitte à ne pas avoir d'argent et être dans la misère. Quoi. C'est la vision romantique de ce que c'est que la création. Toi, tu vas en rabattre de ça. Et donc, du coup, s'il n'y a plus cette charge-là symbolique pour définir ce que c'est qu'un artiste, eh ben alors, du coup, comment est-ce qu'il faut changer de nom? Est-ce que tu as réfléchi à cette question-là? T'en es où? Tout en sachant que, encore une fois, on ne lui demande pas une réponse, là. On demande juste un débat parce que ce qu'il fait et ce que tout le monde fait ici, c'est la construction citoyenne. Donc, ça doit se faire ensemble. Donc, il n'a pas à avoir toutes les réponses. On n'a pas à avoir toutes les réponses. En tout cas, ça met, je pense que la question mérite d'être posée. Et pardon pour d'avoir un peu pris le temps.
Je vais essayer d'être rapide. Alors moi, à titre personnel, je m'inscris tout à fait dans une démarche de désacralisation, on va dire, de la figure de l'écrivain. D'ailleurs, je n'utilise pas ce terme, je préfère auteur, même si c'est pas non plus... dans le théâtre, c'est aussi grandiloquent, mais je ne suis pas dans le théâtre. Mais de façon plus politique et structurelle, cette figure du créateur génial, et là je joue au masculin volontairement, ou même de l'interprète hein, génial, c'est pareil, elle va de pair et elle émerge avec un système économique et social fondé sur l'inégalité et la concentration des ressources, qu'elles soient économiques ou symboliques.
C'est pas que des imaginaires, c'est des imaginaires intégrés dans les conditions matérielles d'existence.
Absolument. C'est un cercle qui se nourrit, évidemment. Donc remettre en question de toute façon ce système économique et social de grande concentration des ressources et du pouvoir, c'est forcément in fine s'attaquer à la figure de l'artiste génial en surplomb de la société et touché par la grâce de fait. Et je remarque que dans nos tissus militants qui s'occupent de ces questions, ça crée aussi des pratiques artistiques, que je ne vais pas pouvoir détailler parce que c'est très vaste, à la fois dans le théâtre, dans les arts plastiques, dans l'écriture, qui commencent à se décentrer, à s'émanciper, alors partiellement bien sûr, mais de cette façon de s'envisager artiste. Maintenant, c'est quelque chose qui est assez peu théorisé de notre côté, c'est quelque chose qui est plutôt pratiqué, mais on ne demande pas mieux que d'être... que ce soit mis en théorie ou quelque sorte.
Bah ça tombe bien. Voilà, on a des personnes autour, ouais.
Non, mais moi j'avais envie de répondre directement avec l'œuvre de Marjorie Higla, quand la chasse populaire, qui je trouve bon, est une sorte de recontextualisation historique de comment on a perçu l'art en France et comment elle a été. Voilà. Et du coup, ce qui est très intéressant, et ce qu'elle elle essaye de démontrer aussi, c'est que c'est beaucoup une question de rapport. En fait, ça a changé à chaque fois de vision. D'abord, on a regardé par rapport au public, ensuite par le social, puis par une forme de rentabilité. Et donc, en fait, l'artiste n'était jamais finalement défini réellement. On contourne à chaque fois justement cette définition de l'artiste, mais plutôt on le définissait par ses actions, par son impact ou par son budget. Et bon, bref, voilà, j'avais juste envie de replacer cette œuvre.
Moi, j'aime comparer la position de l'artiste à la position de l'agriculteur. L'agriculteur, il s'auto-exploite, bien souvent, l'artiste s'auto-exploite. La grande différence, elle se situe notamment au niveau de la subvention, parce que l'agriculteur, il touche la politique agricole commune, pas tous, mais certains. Et l'artiste, en fait, ne touche pas la subvention. La subvention, elle va toujours à l'organisme au-dessus, auprès duquel il va devoir aller se rengager, auprès duquel il va devoir aller convaincre. Et l'organisme au-dessus dans l'agriculture, c'est les centrales d'achat. Et les centrales d'achat, c'est tuer de la marge. Et au niveau des artistes, on se retrouve dans la même situation où quand on vient vendre notre œuvre pour jouer, pour arriver à quelque chose, ben, on se retrouve avec des gens qui veulent tuer de la marge, veulent faire diminuer au minimum. Et donc quand on rentre dans cette logique-là, on se retrouve à perdre toute notre liberté. Quand tu disais tout à l'heure, c'est parce qu'il y a le statut d'artiste que je peux faire des modes doux. Je fais des modes doux parce que je veux sortir de la logique de marché et je veux être dans une logique directe avec les citoyens, avec des gens là où ils habitent, pour négocier avec eux l'hébergement, la nourriture, le prix d'achat du spectacle, en fonction des moyens, en fonction du public, en fonction de ce qui fonctionne.
Voilà. Merci. Peut-être, Pierre, si tu as envie, tu n'es pas obligé, hein, mais...
Juste vite fait, mais là, c'est, je pense qu'on est plus dans le projectif que dans le, que dans le descriptif.
Mais ça nous intéresse avec les dalles. Hein, ça.
Voilà, mais du coup, si on pense à, aux théories de la justice sociale, notamment, et je pense à quelqu'un qui s'appelle Amartya Sen, qui est vraiment plutôt un économiste plutôt classique, qui parle de notion de capacité, et de son idée, un système social juste, un système qui va rendre capable les personnes qui y participent de faire ce qu'elles ont envie de faire de leur vie. Et ça, et dans se rendre capable, il y a une dimension économique, il y a une dimension de santé, mais il y a aussi la dimension éducation, culturelle, etc. Donc moi, j'ai l'impression que si on se repositionne comme ça, en disant, ben voilà, un État juste, une organisation sociale juste, il y aura peut-être la question d'un État central à discuter. Bon. Une organisation sociale juste, une grosse organisation qui rend capable les personnes qui y participent de vivre la vie qu'elles ont envie de mener, ben, du coup,
une vie collective aussi.
Et la vie de l'artiste, enfin, le statut d'artiste au milieu, il apparaît clairement comme un professionnel aussi qui participe à la meilleure, enfin, au fait que les gens arrivent à vivre leur meilleure vie au même titre que quelqu'un qui va être agriculteur. Enfin, voilà. Donc, je pense que peut-être que faudrait. Je trouve que c'est assez intéressant cette manière de voir les choses, parce que on renverse les choses et on n'oblige pas les gens à aller au théâtre, je ne sais quoi, machin. Juste, en fait, on se met en position de. Que des personnes qui ont envie d'avoir une vie émotionnelle, riche, etc., en fait, ils aient les moyens de le faire. Et là, en face, les professionnels de ça, c'est entre autres les travailleurs de l'agriculture.
Merci beaucoup, c'est vraiment passionnant, parce que d'autant que la question des récits sur lesquels, les récits autres, on en parlait avec Luc hier, c'était vraiment un sujet qui nous est important avec les DALE, et je pense qu'on en a besoin. On peut faire une ou deux questions, si vous voulez, avant d'aller manger. Est-ce que il y aurait des choses à dire, ou est-ce que c'est bon, là, vous êtes cuit, vous avez faim? Monsieur Lévy. J'ai oublié de dire que Stéphane faisait un spectacle, ce soir. Oui, en déambulation avec le Slowfest.
Prochain. Merci. J'avais une petite question pour un peu connecter les deux sphères, là, des modes doux et de la politique. Il y a un sujet dont on a pas mal discuté dans les rencontres Armodo, qui serait une proposition pour que dans la comptabilisation de l'intermittence, les journées de transport à mode doux, qui sont extrêmement difficiles à valoriser, Olivier en parlait tout à l'heure, auprès des diffuseurs, c'est-à-dire leur faire payer le sur, parce qu'à mode doux, on va plus lentement, donc on met plus de temps pour faire une date, mais faire payer plus cher aux diffuseurs cette date-là, qui donc a concrètement généré plus de temps de travail, c'est compliqué. Est-ce que ce temps de travail-là, il pourrait être comptabilisé dans l'intermittence, c'est-à-dire compté comme une journée travaillée, même s'il n'a pas été payé par un employeur? Est-ce que ça, juridiquement, c'est quelque chose qui pourrait exister?
Là, je pense que ça t'est adressé, Aurélien. Est-ce que tu as quelque chose à répondre là-dessus?
Oui, alors là, on parle de l'aspect contractuel du salaire. Je pense que c'est tout à fait possible dans le sens où le cachet est déjà une convention. C'est-à-dire qu'on fait une heure sur scène, ça vaut 12 heures pour l'assurance chômage. Donc c'est des conventions contractuelles qui se règlent après de façon législative. qui sont tout à fait envisageables, clairement, et qui sont de bonnes idées, à mon avis, à prendre en compte à l'heure actuelle pour des mesures, disons, intermédiaires, qui permettent déjà de faire avancer les choses sans forcément toucher aux règles du régime lui-même. À mon avis, c'est tout à fait pertinent. Mon travail, moi, comme militant, est plutôt centré, même si dans mon syndicat, le STAR, on fait ce genre de choses, hein, au niveau du contrat des artistes autoristes, mais mon intérêt, moi, se porte plutôt sur la transformation, bah, par exemple, du régime de l'intermittence lui-même, par son élargissement, mais aussi par la mise en cause des seuils, qui ne sont pas des données naturelles. Hein, les 160 heures, avant, c'était 1020 heures, avant 1979, il n'y a pas de raison que ça reste 507, ou qu'on ne passe pas à quelque chose de glissant sur 3 ans, comme ça peut se faire en Belgique. Et c'est ce qu'on met aussi en question dans la proposition de loi sur la continuité de revenus, qui a un seuil différent de l'intermittent, plus bas, qui envisage aussi de passer sur un seuil glissant sur 3 ans pour faire des moyennes. Et tout ça doit se combiner, à mon avis, dans la lutte concrète ici et maintenant pour faire avancer les choses et mettre en question aussi la naturalisation des conditions actuelles de travail. Quand je dis naturalisation, c'est, on en parlait avec Manuel avant de commencer, c'est l'idée qu'à force d'être enfermé dans un cadre administratif, légal, politique, médiatique, on a l'impression que ça a toujours été comme ça de toute éternité et qu'on a trouvé le travail organisé tel quel, de façon naturelle. Non, tout ça, c'est des données politiques qui évoluent en fonction du rapport de force, et que ce soit au niveau du contrat et ce qu'il inclut de façon conventionnelle, encore une fois, tout ça, c'est de la fiction à chaque fois, ou du côté des structures d'assurance chômage ou de sécu, tout ça, ça peut bouger. Et on essaye de mobiliser sur cette idée, quoi. C'est à nous on sait ce qu'il nous faut, on sait quelles sont les solutions pour faire avancer les choses. Il faut s'organiser collectivement pour que ça soit entendu.
En tout cas, je crois qu'un atelier, par exemple, dans le cadre des rencontres Armodo qui inviterait la BUSE, serait, je ne sais pas vous, mais peut-être pas une mauvaise idée. Voilà, moi je lance ça comme ça. Et je suis membre d'Armodo, donc je peux en parler aussi. J'ai payé mes cotisations, messieurs, dames. Voilà, je vous remercie beaucoup, c'était vraiment super.